L'erreur est urbaine sur 48 FM, c'est-à-dire qu'il est 10h ce samedi sur 48 FM. Alors, on a fait une petite pause la semaine dernière, donc on a laissé la place pour le festival Tempo Color qui avait quand même besoin de place, même si c'est pas dans l'espace public. C'était au moins sur la radio, sur 48 FM. On reprend le relais et on reprend le même rythme que d'habitude, du moins en confinement, notre rythme de confinement qui est en hebdomadaire. Du moins, on tient le coup pour le moment. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais on est là cette semaine et a priori, on sera encore là la semaine prochaine. Donc, l'erreur est urbaine, petit récapitulatif pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. On parle d'urbanisme de la ville, que ce soit à Liège, mais également un peu partout dans le monde. Et souvent, on regarde aussi un peu vers la France. On va présenter nos invités tout à l'heure. Je rappelle juste que cette émission, elle est sponsorisée, elle est en partenariat avec Urbagora. J'espère que pour ma revue de presse, justement, peut-être qu'elle me payera les abonnements des journaux parce que j'en ai un peu marre, en fait, d'avoir accès qu'à une toute petite partie des articles du Monde, notamment. Donc, faut à chaque fois que je demande à mes potes pour avoir la suite des articles, mais peut-être qu'Urbagora pourra m'aider la prochaine fois. Voilà, je fais passer le mot en tout cas. Je présente en tout cas mes invités pour cette thématique particulière aujourd'hui. On parle souvent du confinement sous différents angles. La dernière fois, on a parlé notamment de l'opposition ville-campagne et comment on vit le confinement de manière totalement inégalitaire entre les banlieues et la campagne. Et cette fois-ci, on va parler justement de ceux qui sont au front pendant cette épidémie. On va parler des soins et on va parler des infrastructures de santé face à l'épidémie et durant cette période si particulière du confinement. Avec nous, du coup, pour la deuxième partie d'émission, je vais présenter la première, mais déjà, je présente nos invités. Donc, on a Fanny qui est avec nous de la Fédération des maisons médicales. Bonjour, Fanny.
Bonjour.
Et également Aline, donc, qui nous vient. Ouais, on s'ouvre à l'international, comme on l'a dit aussi la dernière fois. On est en France avec Aline du côté de Metz, qui est infirmière en milieu hospitalier. Est-ce que je dis une bêtise ou pas? Bonjour Aline.
Non, pas de bêtise, Alex.
Okay,
en hôpital public, infirmière de bloc opératoire. Bonjour okay. Tout le monde.
Bonjour Aline. En tout cas, on revient vers toi en deuxième partie d'émission. Et pour terminer en hors d'œuvre, on termine par le mieux pour la fin. Est-ce qu'on pourrait dire ça, Bernie, aka Marion? Bonjour Marion.
Et bonjour, j'espère que ce sera le meilleur.
On t'écoute en tout cas en dernière partie d'émission pour les hors d'œuvre. En tout cas, j'introduis ma petite chronique revue de presse qui commence à s'installer. Au début, je faisais une autre chronique qui n'avait rien à voir avec ça et je me suis dit que c'était un peu intéressant d'éplucher l'actualité, pas forcément du principal axe de qu'est-ce que nous a dit le gouvernement aujourd'hui et qu'est-ce qu'il va nous dire demain, mais plutôt de faire une analyse un peu plus, justement, un peu plus urbaine sur ce qui se passe autour de cette épidémie. Alors forcément, je me mets en lien avec la thématique, donc les infrastructures de santé. Et on commence du coup, dans ma patrie, côté français, avec un constat éloquent depuis le début du confinement, c'est l'explosion de la médecine. Deux articles du Monde qui sont tous les deux, en final, écrits, publiés le même jour et publiés par la même personne, Elodie Sherman, qui, donc, dans un premier article, la crise liée au coronavirus consacre la télémédecine. Donc, elle souligne effectivement que suite, du coup, à l'épidémie et au confinement, avec notamment le soutien du gouvernement qui a lancé Ma Santé 2022 pour libérer du temps aux professionnels de santé et faciliter l'accès aux soins, la télémédecine se développe davantage. L'assurance maladie souligne notamment qu'il y a eu 1 million de téléconsultations entre le 5 et le 13 avril dernier. En une semaine, 1 million de téléconsultations, soit plus d'un quart des consultations qui ont été faites via ce système-là contre un mois auparavant, du coup, au mois de mars, seulement 0,1%. Donc, une explosion énorme. Ce n'est pas une barrière générationnelle, comme souligne également l'article. 30% des patients ont plus de 55 ans. Donc, une question qui se pose, est-ce que c'est seulement pas un effet de mode, j'exagère peut-être un petit peu, mais du moins, forcément, un lien à cette épidémie. Est-ce que ça va continuer, s'interroge notamment à la fin de cet article Elodie Sherman, ou est-ce que c'est seulement quelque chose qui va rebaisser? Elle estime qu'a priori non, notamment un autre point qu'elle aborde dans son second article, c'est peut-être une solution face aux déserts médicaux qui sont très importants en France. On en est là. La cabine à médecin sans médecin. Celui-ci vous guide via une application. Donc, c'est la société H4D donc, qui a lancé la cabine médicale connectée. Donc, c'est le médecin urgentiste Franck Baudineau qui sort ce qu'il appelle la consultation, un écran connecté donc en lien avec un médecin à distance et avec tous les instruments médicaux intégrés à cette cabine. On a notamment le tensiomètre, dermatoscope, électrocardiogramme. On pose un diagnostic à distance et si besoin, on peut établir une ordonnance. L'article il ressemble presque à une pub pour vendre justement ce consultation. En tout cas, faut savoir mettre le prix puisque la location, on parle bien d'une location, elle est à 3 500 € par mois. Alors qu'on parle d'une solution qui serait plutôt orientée vers les petites communes rurales. Donc, il va falloir savoir allonger la monnaie. Une dernière réflexion qui est établie dans un article de West France. On laisse la parole à Jean-Jacques Urvoas. Peut-être que ça vous dit quelque chose son nom puisque c'est l'ancien ministre de la Justice du gouvernement français sous François Hollande. Et il nous met en avant l'idée de régionaliser la santé. C'est-à-dire que les ARS, donc les agences régionales de santé, qui sont pour moi vraiment l'équivalent d'une préfecture, c'est-à-dire qui est juste un système déconcentré de l'État, ils sont vraiment liés à l'État et n'ont que très peu de décisions politiques réelles sur les soins et sur la santé à prendre. Ils proposent justement de décentraliser du joug étatique afin de mieux organiser et de répondre aux besoins des populations, de réfléchir localement à la lutte contre les déserts médicaux. Les arguments, en tout cas, ne manquent pas face au dysfonctionnement de l'État français dans sa réponse à l'épidémie du Covid-19, souligne-t-il donc Jean-Jacques Urvoas à la fin de cet article. En tout cas, une belle synthèse qui a été proposée, je termine du coup côté français, on vient à la Belgique juste après, c'est France Info avec le hashtag « et après ». La santé, c'est la priorité des priorités. Effectivement, c'est une réflexion qui revient de plus en plus souvent. Et je pense que, notamment dans les élections qui viennent en 2022, la thématique de la santé sera essentielle. En tout cas, France Info nous propose 11 idées pour repenser notre système de soins. Donc, je ne les ai pas toutes ressorties, mais au moins 4 que je trouvais très intéressantes. C'était sortir de la tarification à l'activité. On va en revenir tout à l'heure, notamment avec une maison médicale. Les EHPAD doivent devenir des lieux de ressources pour le grand âge. Accepter de laisser les lits vides à l'hôpital, effectivement. Pouvoir laisser de la place, pouvoir avoir une réserve justement de lits d'hôpitaux, contrairement à une logique qu'on avait depuis très longtemps de se dire qu'il faut toujours, comme une entreprise, on a l'impression des fois de parler d'une entreprise de voiture, d'être toujours en flux tendu. Eh bien là, on revient à une autre réflexion, celle de laisser de l'espace au cas où. Et la dernière que je trouvais essentielle, considérer la santé comme un bien suprême. Et je pense en tout cas qu'on va y revenir dans les prochains mois, dans les prochaines années. En tout cas, ce sera une thématique centrale. Puis, je me tourne vers la Belgique et un article du Vif. Je suis vraiment tombé par hasard sur cet article en scrollant Facebook. Effectivement, en ce moment, j'ai un petit peu de temps. Je suis toujours au chômage technique. Mais bref, publié le 22 avril dernier, intitulé « Le système de santé le plus efficace face au coronavirus est celui qui fait de la prévention la priorité ». J'avais juste vu ce titre et j'avais cliqué dessus. Et je me rends compte que c'est signé par deux médecins à la médecine pour le peuple, la MPLP. On en reviendra tout à l'heure, notamment avec Fanny. Donc, c'est Sophie Merckx et Tim Joy qui sont tous les deux médecins pour la MPLP. Ils ont ainsi lancé, donc ils décrivent notamment ce qui a été lancé par ces centres de soins en fait. Ils ont ainsi lancé de manière proactive dès le début de l'épidémie pour prévenir les personnes les plus vulnérables parmi les patients des MPLP, soit plus de 3000 personnes. C'était aussi un outil pour pouvoir rassurer et avoir des retours des besoins et des attentes de ces patients, des besoins pratiques puisque d'un coup ils sont limités dans leurs déplacements. Alors, je reviens notamment sur ce qui a été mentionné. Donc, un travail de dépistage a été mis en place, mais bien trop tard. comme il le souligne dans l'article, je cite, « La dure leçon à tirer est aujourd'hui qu'on a priorisé l'aspect curatif par rapport à l'aspect préventif pour combattre l'épidémie. » Je continue un peu plus tard dans l'article. Bon, c'est un petit peu long, désolé, mais je trouvais ça intéressant de le reprendre mot pour mot. La réalité est que notre système de soins de santé n'est pas en mesure de fournir une réponse rapide pour un tel travail de prévention. Les soins de santé dans notre pays sont particulièrement fragmentés. Pour la prévention et donc pour lutter contre des épidémies à grande échelle, on a besoin d'un maillage de zones de soins reliées au quartier et bien connectées entre eux. En plus de cela, les aspects curatifs et préventifs de la santé sont des compétences fragmentées et réparties entre nos 9 ministres de la Santé des différents niveaux de pouvoir. Cela traduit la douloureuse absence d'une vision globale de la santé que nous payons chèrement aujourd'hui. Enfin, à la suite de cet article, on souligne également la mise en place donc par le gouvernement d'équipes socio-épidémiologistes, pardon, c'est pas évident à dire, donc environ 2000 personnes qui vont aller sur le terrain pour faire des recensements des gens qui sont infectés ou non, du moins de manière préventive. Donc 2000 personnes sur toute la Belgique contre 9000 à Wuhan pour quasiment la même population, 11 millions de personnes, et qui ne seront pas prêtes avant la fin du mois de mai selon SPF Santé Publique. Une solution en tout cas qui est mise en avant, on cite notamment le Financial Times, notamment dans cet article du VIF, il faut inverser la politique menée ces 40 dernières années. Les pouvoirs publics doivent jouer un rôle plus important dans l'économie. Ils ne doivent plus considérer les services publics et les services d'intérêt général comme des sources de dépenses. C'est dit que ne doivent pas être considérés ils ne doivent plus être considérés comme des services publics et des services d'intérêt général comme des sources de dépenses, mais comme des investissements. C'est dit par le Financial Times, imaginez. Et ça reprend notamment, comme souligne l'article, le modèle universel lancé par l'OMS en 1978, la santé pour tous, qui a été plus ou moins enterré par la suite par le système capitaliste qui a un peu roulé un peu partout, et notamment sur la santé. Une solution en tout cas qui est évoquée par cet article, travailler l'aspect de la financiarisation du système de santé, non pas à la prestation, mais au forfait, ce qui rend les soignants plus autonomes car moins dépendants du nombre de prestations. Attendez, alors je réfléchis. Un ensemble de structures avec une articulation centralisée, alliant système préventif et assurance maladie dans une vision globale. Mais ne serait-ce pas le modèle des maisons médicales ? Mais bien sûr que si, Alexandre ! Et je reprends pour cela également un dernier article. Alors, c'est plutôt une interview. En tout cas, je trouvais que le titre était intéressant. En tout cas, il pose la question. Donc, c'est Kairos, un média alternatif belge. Les maisons médicales, un contre-modèle à la médecine marchande. Donc, ici, c'est Christophe Coucu, qui est secrétaire général de la Fédération des maisons médicales depuis 2016, qui a été interviewé. Et donc, qui met en avant, justement, des bienfaits des maisons médicales. Quelque chose d'autre qui est intéressant, je remercie Lucas, en tout cas, de me l'avoir envoyé. Vous pouvez retrouver tout un mensuel de C4, le numéro 230, qui a été publié en 2017, intitulé « Maison médicale, une alternative en première ligne ». Un ensemble d'articles ultra intéressants sur le sujet. Je vous invite à lire. En tout cas, tout est en ligne sur le site internet de C4 et c'est gratuit, c'est en PDF. C'est super agréable à lire et c'est super intéressant. C'est presque la fin de cette première partie. En tout cas, c'était important de souligner que notre invité et nos invités vont parler tout à l'heure en deuxième partie, donc Aline, qui est infirmière en bloc opératoire du côté de Metz en France. Et on va avoir son témoignage par rapport à ce qui se passe notamment en France. Et on va avoir également Fanny qui travaille aux maisons médicales francophones. Ça va être intéressant de vous avoir puisqu'on va un peu donc voir à la fois ce qui se passe actuellement, mais aussi ce qui se passe depuis pas mal d'années. Je pense que c'est intéressant d'avoir vos impressions de l'intérieur de, depuis plusieurs années, et également les espérances qu'on peut avoir suite à, on peut presque parler d'un traumatisme de cette épidémie et du confinement. On écoute ça en deuxième partie. Pour le moment, on se détend un petit peu. On met de la musique parce qu'on est sur 48 FM quand même. On a une programmation musicale. Et cette fois-ci, on écoute en lien avec la thématique. C'est plutôt joyeux. Je n'avais pas envie de mettre un truc lourd, mais c'est plus ou moins, du moins dans le titre, c'est dans la thématique. C'est Malade d'Hocus Pocus. J'ai mis la version de 2001 que je préfère. Oui, je choisis le programme musical. Je fais ce que je veux. C'est mon émission. Sur le maxi Acoustic Hip Hop Quintet, édité grâce à leur Victor MCM Session 2002. Donc, Hocus Pocus, ils sont pas vraiment malades, si ce n'est de hip hop. On écoute ça tout de suite. Yeah. Malade.
Ouais, yo, yo, yo. Depuis quelques temps, je suis blanc comme un cachet. Sûr que ça vient de la bouffe. Encore un virus qu'on m'a caché. Mon assiette est pleine d'OGM. Plus aucune hygiène, on mange n'importe quoi, on boit n'importe quoi à la tienne. J'ai quelques symptômes peu ordinaires. J'ai envie de zap large et tu connais pas la dernière. Maintenant, je porte casquette et runner. J'ai remplacé le Figaro par The Source et c'est pas une rumeur. Je suis malade et c'est pire chaque mois. Maintenant, des bagues en or me poussent sur les doigts et je perds mes cheveux. Si Dieu le permet, je veux que ça s'arrête au plus vite et qu'on en parle plus. Putain de syndrome inconnu, moi j'en peux plus. Dès qu'un big part, ma température monte. Dès quelqu'un paiera, ma température monte. Pour l'instant, j'ai juste un truc pour calmer la fièvre. Une dose de mano quand je me lève. J'suis malade, complètement malade, mec. J'suis malade et j'ai du mal à l'admettre. J'suis malade, en effet, j'suis malade, rien n'y fait. J'suis malade, pas question déclarer forfait, gars. J'suis malade, complètement malade, mec. J'suis malade et j'ai du mal à l'admettre. J'suis malade, en effet, j'suis malade, rien n'y fait. J'suis malade, pas question déclarer forfait, gars. Y'a un truc chelou qui se passe, ouais. J'ai envie d'être seul et dis-leur qu'ils se cassent, s'te plaît. Eux et leur distance couplet, je sais même pas à quoi ils servent. J'ai la tête qui bouge et les mâchoires qui se desserrent. De haut en bas, en produisant des sons. Maintenant voilà que je fais des rimes et même des jeux de mots, c'est indécent. Sur ce, je vais voir mon médecin. Il me dit, monsieur, c'est le virus du rap, j'ai le vaccin. Vous me prendrez deux, Johnny Hallyday le matin. Oula, c'est fort ça, vous êtes sûr dès le matin. Il me répond que c'est efficace a priori. Et que si ça suffit pas, y'a aussi Patrick Fiori. Putain de virus, maintenant je rappe tout le temps. Putain de virus, lâche-moi vite, fous le camp. Faut que je me soigne, ça ira bien. Avec ce nouveau médoc, on m'a prescrit le Lara Fabian. Complètement malade, mec, j'suis malade et j'ai du mal à l'admettre. J'suis malade, en effet, j'suis malade, rien n'y fait. J'suis malade, pas question déclarer forfait, gars. J'suis malade, complètement malade, mec. J'suis malade et j'ai du mal à l'admettre. J'suis malade, en effet, j'suis malade, rien n'y fait. J'suis malade, pas question déclarer forfait, gars. J'ai tout essayé, mais là j'suis à bout de nerfs. Qu'est-ce que tu veux que j'fasse? J'ai même fait une cure type éternel. Il paraît que c'est ce qu'il y a de mieux pour les gens dans la norme. Mais sur moi rien n'y fait, même genre le normand. Il me faudrait un truc fort, un truc bien efficace. Genre Pascal Obispo pour que le virus y passe. Stex, tu te demandes, je le sors d'où? J'en sais rien, moi je suis plutôt Michel Sardou. D'habitude je rappe pas, j'écris pas et je compose pas. Je suis du genre timide auquel on cause pas. Mais là je suis malade, infecté au hip hop. Ouais là je suis malade et faut que j'ai l'antidote. Je suis malade, complètement malade, mec. Je suis malade et j'ai du mal à l'admettre. Je suis malade, en effet, je suis malade, rien n'y fait. Je suis malade, pas question déclarer forfait, gars. Je suis malade, complètement malade, mec. Je suis malade et j'ai du mal à l'admettre. Je suis malade, en effet, je suis malade, rien n'y fait. Je suis malade, pas question déclarer forfait, gars. HP, complètement malade, mec. DJ Cream, complètement malade, gars. La One, complètement malade. DJ V, complètement malade, tu sais. On and on, complètement malade, mec. Coup de crosse, complètement malade, mec. DJ Atom, complètement malade, mec. Vinci, complètement malade. Thank you.
retour dans l'erreur est urbaine sur 48FM. L'erreur est urbaine, c'est votre émission qui parle d'urbanisme à Liège et un peu partout dans le monde. C'était Hocus Pocus Malade qui était juste avec nous. Vous avez pu l'entendre. On parle de malade parce qu'on parlait du moins, en tout cas, des établissements de santé en France et en Belgique. On a fait un peu un état actuel des choses et des réflexions en revue de presse de ce qui s'était passé ces derniers mois. Et là, on laisse la parole à des gens de terrain et en France et en Belgique. Je les ai déjà introduits tout à l'heure, mais peut-être que vous nous rattrapez en cours. Donc, nous avons d'un côté Aline, qui est infirmière en bloc opératoire, pardon, autant pour moi, du côté de Metz, dans le Grand Est, une région qui a été particulièrement touchée par l'épidémie. Bonjour Aline.
Bonjour Alex.
Et rebonjour également Fanny, qui est secrétaire générale des maisons médicales du côté belge.
Bonjour Alexandre.
Alors, l'idée, c'est d'un peu discuter avec vous, d'avoir vos impressions de terrain, notamment toi, Aline, qui est infirmière depuis un certain temps. C'était intéressant de voir comment ça se passe, qu'est-ce que tu as ressenti peut-être comme évolution, puisqu'on en a parlé de peut-être une dégradation du système de santé publique un peu partout dans le monde, notamment en France et en Belgique. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi? Et voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant depuis cette épidémie? Et à la fin aussi, on aimerait aussi avoir peut-être tes espérances ou des constats que tu fais ou des réflexions qui sont en cours, peut-être au-delà de réflexions, peut-être des rébellions ou des actions qui sont en train d'être mises en place par les soignants pour justement réagir face à l'immense problématique. Vous étiez dans les rues il y a quelques mois, je pense que ça ne va pas s'arrêter, du moins avec une épidémie. Je te laisse la parole déjà pour un peu plus te présenter et savoir depuis quand tu es infirmière, etc., connaître un peu plus ton parcours.
Voilà, et bien moi je suis infirmière de bloc opératoire depuis plus de 30 ans. Et il est vrai que j'ai vu le système évoluer et peut-être pas forcément de la meilleure manière. En ce sens qu'avant, j'avoue, il y avait une hégémonie médicale, je dirais, sur l'hôpital. Il y avait l'image du médecin tout-puissant qui débarquait dans le bureau de la directrice en tapant sur le bureau et en ayant tout ce qu'il voulait. Ça, c'était peut-être pas non plus le meilleur des modèles. Par contre, maintenant, on arrive dans un système où, dangereusement, on a carrément une scission entre les financiers, c'est-à-dire tout ce qui est bureaucratique, disons-nous, et le médical. Il n'y a plus aucun lien. On ne parle plus de qualité de soins, on ne parle plus de patients, on parle de clients. Donc c'est indéniable que nous, soignants, nous souffrons de cet état de fait. Pour citer juste un fait qui, moi, m'a vraiment dernièrement scotché, on est à l'ère de l'ambulatoire, c'est-à-dire que les patients doivent très vite sortir de l'hôpital. Donc on a créé des hospitaux ambulatoire où le patient arrive le matin et ressort le soir. Or, maintenant, les patients, on ne leur demande plus de ressortir le soir, on leur demande de ressortir à midi pour pouvoir faire tourner les lits deux fois. C'est-à-dire qu'il y aura un autre patient qui va venir à midi pour ressortir le soir. Et là, actuellement, on est en train de nous dire qu'on veut faire tourner les lits trois fois. Donc, franchement, ça devient… On est dans l'inhumanité totale. Bon, ceci dit, tout le monde le sait, on est en train de se battre pour ça. Et je pense que les pouvoirs publics s'en rendent compte quand même. Maintenant, par rapport à la crise du Covid, je voudrais quand même applaudir, pour l'avoir vécu, applaudir à la fois le gouvernement français, contrairement à tout ce qu'on peut dire, et les institutions sanitaires. Parce que en l'espace de nous, on a mis 15 jours pour monter une unité de réanimation de 106 lits. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Et ça a été fait en 15 jours. Et ça, j'ai été vraiment admirative. Et d'autre part, le fait que la France ait pu, mais même la Belgique au niveau mondial, tout le monde a pu faire ça, le fait que les hommes ont pu arrêter une économie nationale pour sauver des vies humaines, je trouve que ça a été quand même un message d'espoir. Parce que là, on va souffrir de l'impact économique énorme. Mais pour nous, ça a été… on nous a sauvés, quoi. Parce qu'à un moment donné, on a vu cet afflux de patients. On en était à… on en était à 5-6 intubations en détresse respiratoire par jour. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Et on se sentait débordé. C'est un sentiment, c'est... quand j'en parle encore, j'en frissonne encore. Et le fait de voir que le pays a pu se figer comme ça pour nous, franchement, c'était ça pour nous, c'est un message d'espoir. Et j'espère qu'on va rester sur cette prise de conscience humaine. Là, on était vraiment dans l'humain. Et j'espère que cette prise de conscience humaine va perdurer.
Donc, tu vois effectivement qu'il y a… En tout cas, il y a des considérations qui ont été prises. Il y a des priorités qui ont été prises en faveur de la vie.
Voilà.
C'est vraiment ça. Est-ce que tu ressens du coup en interne, peut-être au niveau des syndicats de santé, au niveau même au niveau juste de tes collègues, est-ce qu'il y a une réflexion qui se fait sur comment se mobiliser ou quelles sont les demandes particulières qui sont faites en premier lieu pour aller dans un autre sens quelles sont les revendications premières qui ressortent du moins à ton échelle?
Mais les mobilisations, nous, ça fait des mois qu'on se bat. Ça fait des mois qu'on est dans les rues à dénoncer un système, un hôpital déshumanisé, un hôpital qui ne parle plus qualité de soins, comme je te dis, Alex. Et évidemment, on va poursuivre notre combat, mais on aimerait être relayé un petit peu par le public. Parce que nous, on commence à fatiguer. On doit se battre sur tous les fronts. On doit. Et c'est vrai qu'on aimerait qu'à présent le public nous soutienne, quoi. Qui est une. Et ça, je pense que ça va être fait après cette crise du Covid.
Donc effectivement, il y avait un combat qui est, comme tu dis.
On aimerait bien être relayé.
C'est ça. C'est ça.
Par nos patients, quoi. Voilà, par les gens qu'on soigne, quoi. Il faut qu'on, voilà.
Donc c'est partir. Effectivement, c'est peut-être ça qui, enfin, pas qui a manqué, mais en tout cas peut-être que le ressenti que tu as eu pendant les manifestations des mois derniers, c'est que au final c'était quelque chose de très interne et que là, bah, comme pour toute manifestation, pour qu'elle aille au bout, il faut un soutien, on va dire public, de la société, dans son ensemble.
C'est ça.
Qui a l'air, du moins en plus avec la durée de ce confinement, de cette prise de conscience que l'hôpital est au centre, les soins sont au centre de la priorité. Effectivement, peut-être que c'est une réflexion qui sera prise en compte et du moins beaucoup plus globale. C'est ce qu'on dit justement dans la première partie de l'émission. Clairement, on pense, du moins j'estime, que l'une des priorités politiques et l'une des paroles politiques qui va le plus ressortir, ça va être protégeons notre système de soins. On le targue toujours en France d'être l'un des meilleurs du monde, mais il faut le prouver. Et puis, il faut, en plus de le préserver, il faut aussi continuer à l'améliorer. On améliore plein de choses dans nos vies. On peut également améliorer nos soins, tout simplement. Et comme tu défends, comme tu le disais, c'est important, c'était un premier signe de défendre la vie face à l'économie. espérons que ça continue au-delà de ces quelques mois.
Voilà, parce qu'en fait, lors de nos combats, quand on voyait chaque fois des personnes un petit peu entre guillemets célèbres ou dont la parole peut porter, c'était toujours du monde de la culture, des acteurs qui prenaient la parole, qui nous défendaient. Mais on n'a jamais vu de grands chefs d'entreprise qui prenaient la parole en notre faveur. On n'a jamais vu de politiques qui ont pris la parole dans notre faveur. Moi, j'ai vu Daniel Auteuil, ça fait plaisir, hein, c'est super. Voilà, donc on aimerait, parce que les grands financiers se retrouveront sur un lit d'hôpital tôt ou tard aussi. Il ne faut pas jouer les démiurges et se croire tout puissant. Et je pense que c'est là le problème actuel, c'est que et le Covid, justement, pour, je pense, le bien que ça a fait, c'est que ça a donné une leçon d'humilité à l'homme. Il s'est cru tout puissant, l'argent tout puissant. Or non, non. On fait partie de la nature. Ce virus émane de la nature. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Et il faut, voilà. Et comme tu dis, Alex, la seule grande richesse qu'on a, c'est notre santé.
Merci, c'est une belle conclusion. On revient vers toi tout à l'heure, Aline. Mais du coup, je voulais justement rebondir sur ce que tu disais sur le fait qu'on a la sensation des fois que les plus riches sont dans une inégalité face à la santé, qu'ils vont pouvoir se retrouver parce qu'ils peuvent payer justement vers des meilleurs soins de santé. Et ben, on va justement voir avec Fanny qu'il y a un autre modèle qui est proposé avec les maisons médicales. C'est une volonté. Alors, je fais un petit résumé, je me permets, puisque moi, modeste français que je suis, je connaissais très peu ce que c'était les maisons médicales avant de venir en Belgique. Et j'ai pu un peu, justement pour cette émission, surtout découvrir un peu plus ce que c'était. Je mets quelques chiffres et quelques grands principes qui sont défendus par la maison médicale, qui est donc, on va dire, l'un des derniers nés et l'une des dernières traductions des revendications sociales, sociétales des années 60 et 70. Donc actuellement, en Belgique francophone, c'est donc 121 maisons médicales qui existent pour 270 000 patients soignés chaque année et 2200 professionnels de santé. On estime qu'il y a en moyenne plus de 6 maisons médicales qui ouvrent chaque année. Et donc, la volonté, c'est de défendre presque, en tout cas, ce qui était dit dans… Donc, je relance les articles que j'ai pu lire à ce sujet, à la fois sur le site internet de Kairos, les maisons médicales, un contre-modèle à la médecine marchande, où vous pouvez également retrouver le numéro 230 du magazine C4, qui date de 2017, maison médicale, une alternative en première ligne. Et donc, en résumé, on peut presque dire que c'est une… Alors, peut-être qu'on n'aimera pas tous ce terme, mais une médecine de gauche qui défend l'autogestion et l'égalité des soins, que ce soit entre chaque patient, mais également entre les différents praticiens. Une constitution en ASBL, donc sans recherche de profit. Je fais un très court résumé, mais voilà, c'était un peu les principes qui sont défendus par les maisons médicales. Je laisse la parole à Fanny pour à la fois se présenter et présenter largement mieux que moi les maisons médicales. Rebonjour Fanny, je te laisse la parole.
Bonjour. Non, c'était déjà très bien, hein. Franchement, on aime ce dynamisme quand on nous défend aussi bien parce que c'est pas habituel. En fait, habituellement dans le système justement plus libéral, notre système de santé, et j'imagine qu'en France c'est la même chose, hein, a une culture historique très très libérale, même dans la période des 30 glorieuses où il y a eu la mise en place de la sécurité sociale, etc. Les médecins en Belgique faisaient la grève parce qu'ils refusaient que l'État régule leurs honoraires. Et donc, elle vient de très très loin, cette culture où le médecin se sent assez dominant dans le système de santé. Et donc, le paradigme du curatif sur le préventif est dominant. Or, on sait aujourd'hui que la santé, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est l'OMS qui est quand même une instance internationale reconnue, démontre via toute une série d'études que 80% de notre santé est déterminée par des éléments extérieurs à la dimension curative, donc que ce soit l'augmentation des inégalités sociales, effectivement, mais qui influence toute une série de facteurs de risque en termes de consommation d'alcool, de tabac, de pratiques alimentaires. La question de l'éducation aussi est très importante. La question de l'environnement écologique influence forcément notre santé. Et donc, c'est sur base de ce principe-là que des maisons médicales se sont construites. Alors, comme tu l'as souligné, dans une période phare dans l'histoire sociale de notre système de santé, à savoir proche des mouvements de mai 68, mais aussi en réaction à cette fameuse grève qui a été lancée dans les années 60, donc une des premières grèves de droite, en fait, qui a été construite dans notre système parce que des médecins refusaient catégoriquement qu'on puisse introduire des lois de régulation des prix de leur des soins qu'ils accordaient aux patients. Et donc, dans ce mouvement-là de grève très violente, parce qu'ils ont carrément arrêté tous les soins, hein, à un moment donné, c'est même l'armée dans les années 60 qui a dû reprendre en main certains hôpitaux, certains cabinets, etc., parce que les médecins refusaient de soigner les patients tant qu'on ne remettait pas la vision de la santé plus libérale. Et donc, ça a été un conflit très, très intense dans lequel certains médecins, mais aussi avec la collaboration de sociologues, de psychologues, d'infirmières, se sont dit, en fait, nous, on n'a pas envie de fonctionner dans ce principe-là. On va construire des localités, des petits centres pluridisciplinaires, autogérés, effectivement, qui à la fois défendent des principes de sécurité sociale centralisée et à la fois défendent une certaine autonomie d'action dans leurs pratiques socio-sanitaires pour, dans un principe d'intelligence collective pluridisciplinaire, prendre en charge plus globalement la personne et donc moins sur les aspects très techniques curatifs, même s'ils étaient importants aussi. Donc ça reste quand même des médecins qui prescrivent des médicaments, font des consultations classiques. Mais en plus de cela, le principe, c'est de dire on prend la personne dans sa globalité, on prend en charge la personne dans sa globalité, et donc on prend en compte le fait que des éléments à la fois psychologiques mais aussi sociaux influencent son état de santé. Et donc on essaye d'ailleurs ce patient de travailler aussi la relation thérapeutique et le cadre de domination qu'il y a dans cette relation thérapeutique, et en essayant aussi de le rendre plus autonome dans sa prise en charge, avec l'idée aussi que que la hiérarchie entre les professionnels de soins n'a pas de lieu d'être à partir du moment où on considère justement que c'est via cette pluralité des savoirs qu'on peut prendre en charge de façon plus qualitative la personne. Donc c'est vraiment dans cette dynamique que les maisons médicales ont commencé à se créer dans les années 60. Alors ici, c'est le beau discours, hein. Après, dans les faits, il est évident que ça reste les médecins qui travaillent en maison médicale ont été formés dans des facultés de médecine dans lesquelles on leur apprend qu'ils ont un pouvoir absolu. Même moi, je le rencontre au quotidien. C'est il y a comme dans tout système, il y a encore des rapports de domination. Mais honnêtement, depuis que j'ai intégré ce mouvement, je réalise à quel point la santé peut être pratiquée autrement. Et ce principe de démocratie approfondie qu'on essaye de rappeler sans cesse dans le monde des maisons médicales permet d'assurer une plus grande liberté de prise en charge pour les professionnels de santé. Donc ça, c'est un peu le principe. Puisque tu me proposais de faire un rebond dans l'histoire aussi de notre système de santé. Alors, plus globalement, par rapport à la crise qu'on vit aujourd'hui, en fait, ce qui a été intéressant, et là, je rebondis sur un élément que Aline a mis en lumière, c'est l'aspect... comment un virus permet au système de céder en fait sous la pression des événements. Le système qui, nous aussi, chez nous, on est microscopique hein, dans le système de santé, même si donc, tu parlais de 121 maisons médicales, en fait, il y en a un peu plus. Il y en a 121 qui sont regroupées dans notre fédération, mais il n'y a pas que notre fédération qui existe en Belgique. Il y a des plus petites fédérations aussi qui sont regroupées, voire même des maisons médicales qui se construisent sans être rattachées à une fédération. Ça, c'est vrai que c'est un principe aussi très fort des maisons médicales, c'est qu'à la fois elles agissent de manière autonome localement dans un réseau social et sanitaire créé à l'échelle d'un quartier, mais aussi elles sont connectées entre elles via la fédération. En tout cas, c'est ce qu'on prône chez nous, à savoir qu'elles créent aussi entre elles des mécanismes de solidarité. Les plus anciennes, qui par exemple sont un peu plus riches, ont tendance à investir dans un fonds de soutien qui aide au développement de nouvelles maisons médicales. Et donc, ce qu'on a pu comprendre dans le cadre de cette crise, c'est à quel point, ben, tout d'un coup, les maisons médicales ont été vraiment fortement mises en lumière, alors que d'habitude, elles sont très, très fort décriées. Donc, on considère que ce soit les médecins spécialistes, par exemple, qui continue d'avoir une vision, je dirais, plus libérale, plus indépendante, considère que notre médecine est effectivement une médecine trop à gauche, dans laquelle la liberté des individus est mise à mal, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs qui ont tendance à nous mettre des bâtons dans les roues, alors qu'en fait, bon... Nous, par exemple, notre fédération, on n'est pas rattaché à un parti politique, on se dit pluraliste. On a quand même ce principe de démocratie approfondie qui nous habite en permanence. Et ce principe aussi de liberté thérapeutique qui est très, très fort. Et donc, c'est impressionnant de voir comment, habituellement, on effraie un peu le système. Alors que, en fait, dans le cadre de cette crise, tout d'un coup, on a été fortement mis en lumière et énormément appelé, même par le gouvernement, pour à la rescousse. Quoi. Pourquoi ? Ben, justement, moi, mes hypothèses, c'est que, effectivement, un système qui habituellement fonctionne de façon extrêmement cloisonnée, avec une mise en concurrence entre les acteurs, avec ce principe de rentabilisation permanente et un aspect financier qui domine de plus en plus le système, mais tout d'un coup, le fait qu'un virus dont on ne savait pas comment le gérer débarque dans le système, ben, ça l'oblige à se dire, ben, en fait, est-ce qu'on ne doit pas commencer à se repenser, quoi. Et donc, est-ce que le côté extrêmement médicalo-centré et curatif ne doit pas être remis en question dans une dimension peut-être plus de prise en charge préventive, par exemple. Et là, c'est hyper impressionnant, un bête exemple, donc chez nous, je ne sais pas si en France ça a été le cas aussi, mais les maisons de repos, ça a été terrible, hein, vraiment, une fois que le virus rentrait dans ces structures pour personnes âgées, il y a eu un taux de mortalité assez important qui a été observé dans les maisons de repos, eh bien ça, par exemple, tout d'un coup, dès que le système s'est rendu compte qu'il ne tenait plus les rênes, les acteurs qui ont été appelés, c'est les maisons médicales. Pourquoi ? Parce que les experts qui géraient cette mission donc de Médecins sans frontières disaient ben, « Non, ne mettez pas des médecins solos dans le cadre de cette mission parce que l'objectif, c'est justement de faire plutôt de la santé communautaire. Qui est formé en santé communautaire en Belgique ? Ce sont les maisons médicales. Nous, depuis 40 ans, depuis le développement de notre mouvement, collectivement, dans cette fameuse fédération, on investit dans la formation continue à la santé communautaire de nos professionnels. Et donc ça, c'est hyper intéressant comment, là, je rejoins complètement ce qu'Aline disait, comment tout d'un coup, le système est obligé de se réadapter et de façon très, très rapide. Un autre exemple, depuis le début de notre mouvement, on défend une coordination territorialisée, donc de manière à ce que à l'échelle d'un plus petit territoire, on puisse coordonner de façon pluridisciplinaire entre plein d'acteurs de la santé une prise en charge continue et accompagner des patients. Ben, pareil, chez nous, en 15 jours de temps, tout de suite, cette fameuse petite coordination territorialisée a été mise en place pour différents aspects avec plein d'acteurs différents et donc toutes les cloisons qui d'habitude sont imposées par des politiques publiques hyper bureaucrates dans lesquelles chaque ministre a sa compétence et vous pouvez pas tout d'un coup allez-y et donc ça je trouve que c'est assez génial quoi, c'est la petite touche où même s'il y a eu des trucs aussi trash hein, j'imagine vous avez eu aussi cette pénurie des matos de protection etc. Ça a été dur, violent. J'ai senti que sur le terrain, c'était épuisant. Je trouve que tous ces aspects un peu, des trucs qu'on revendique depuis des tas d'années. Il y a d'autres exemples, hein, l'automatisation des droits sociaux, par exemple. Tout d'un coup, hop, les allocataires sociaux pouvaient bénéficier de leur allocation avec un clic informatique. C'est ce qu'on défend dans les mouvements sociaux. On a organisé plein de manifs et tout pour ça. Et tout d'un coup, ça a été mis en place. Donc voilà, ça, je trouve que ces petites touches qui donnent quand même de l'espoir, il faut les retenir absolument. Et il faut vraiment qu'on essaye de faire en sorte que dans nos politiques plus structurelles, du coup, ça s'intègre maintenant. Que ça ne soit pas juste une parenthèse.
Voilà. Alors, justement, c'était... En fait, c'est un beau contre-pied avec quasiment les relations politiques, notamment que vous aviez avec la ministre fédérale de la Santé, Maggie de Blocq, qui avait largement critiqué les maisons médicales et qui avait pas mal freiné des cas de fer pour limiter du moins leur expansion, presque une peur de voir. On avait l'impression qu'on parlait d'une médecine parfois chamaniste ou je ne sais quoi, mais du coup, là, il y a du dialogue, du moins, de ce que tu as l'air de dire. Il y a un dialogue politique qui se fait, donc j'imagine au niveau régional, ou du moins, il y a peut-être des signes. Je vois que tu t'es pas trop convaincu.
Au niveau régional, c'est clair. Ouais. Ça, c'est sûr que, entre guillemets, maintenant, on a trouvé une légitimité. Donc, la Belgique est compliquée hein, en termes de niveau d'institutions, niveau de pouvoir. C'est à cause du conflit communautaire entre Flamands et Wallons, notamment. Au niveau fédéral, honnêtement, je crois que justement, elle est plutôt un peu inquiète de voir que tout d'un coup, on est partout, quoi. Alors qu'on est un tout petit secteur, on a été aidé dans ces maisons de repos, mais aussi dans centre pour personnes en situation de handicap, mais aussi pour le dépistage. Aussi, les hôpitaux nous ont appelés pour les centres de tri. Et donc, du coup, je pense que ça l'inquiète un peu, Madame de Blocq, parce qu'elle, voilà, elle est dans un parti libéral, elle est flamande, donc ça aussi, les maisons médicales sont un peu plus dominantes du côté francophone et donc ce conflit communautaire n'aide pas. Donc justement, je pense qu'elle, elle essaie quand même encore de nous mettre quelques bâtons dans les roues. On l'a observé dernièrement dans un arrêté qui est passé où on a été les seuls ne pas être mis dans le champ d'application. Donc voilà, là, c'est pas encore gagné, ça c'est sûr, mais c'est intéressant de constater justement que tout ça l'inquiète. Voilà.
En tout cas, il y a un nouveau regard politique qui se crée. Est-ce que sur le terrain, donc toi tu n'es pas directement sur le terrain, mais tu as quand même un contact direct avec les travailleurs de terrain, est-ce qu'ils ont aussi cette sensation peut-être de plus de reconnaissance ou d'autres, justement, ils travaillent, là vous travaillez davantage avec les hôpitaux, avec peut-être d'autres collègues, d'autres professionnels du soin qui n'étaient pas encore dans des maisons médicales mais qui travaillaient de manière indépendante, est-ce que vous avez des retours, est-ce que vous avez une nouvelle curiosité peut-être qui apparaît chez eux?
Mais bon, déjà, allez, effectivement, moi, je travaille pas sur le terrain, même si j'y ai été, hein, parce que on part du principe à la fédération que ce qu'on appelle les travailleurs mixtes, donc des gens qui travaillent en maison médicale et qui travaillent à la fédération. Donc, ils sont sur le terrain, mais en même temps, ils ont un mi-temps, un carton pour l'aspect plaidoyer politique qu'on construit à la fédération. Et donc, au quotidien, je rencontre des personnes qui travaillent sur le terrain. Et c'est sûr, ils le disent eux-mêmes aussi, hein, ces expériences qui ont obligé les travailleurs de maisons médicales d'aller presque même au-delà de leur principe théorique de pluridisciplinarité qui se joue à l'échelle de leur petit centre, le fait de pouvoir aller le faire aussi dans d'autres secteurs, dans d'autres lieux de santé, ben ça offre un espace de réflexion partagée entre plein de professionnels de santé qui est inouï et qu'il faut absolument maintenir justement pour après et pour essayer de gagner en pouvoir d'agir ensemble. On a un intérêt clairement à travailler avec les infirmières de l'hôpital, des maisons de repos, enfin ce qu'on a vu dans les maisons de repos, mais c'est juste, il y a certains professionnels qui sont totalement relégués dans l'ombre, quoi. Donc ça, je pense aussi que c'est une force qu'on doit nous trouver entre travailleurs de la santé, de se dire ne l'oublions pas, quoi. Restons connectés et essayons justement de coordonner un peu la force de nos mouvements sociaux à venir pour quand même qu'on puisse gagner certains progrès sociaux à la fois dans nos conditions de travail mais aussi sur plus généralement quel système de santé publique on a envie de mettre en place demain. Je pense aussi à un deuxième élément qu'on a pu mettre en lumière, enfin que les professionnels de terrain me mettent en lumière, c'est, j'en ai pas parlé ici, mais ce qu'on a, un des acquis sociaux qu'on a eu dans l'histoire de notre mouvement, c'est le financement au forfait. Donc la plupart des professionnels de santé effectivement sont payés à l'acte, donc sur base des actes qui produisent. Or aujourd'hui en maison médicale, ben en fait le patient qui s'inscrit en maison médicale, il s'engage à rester du coup à être soigné dans cette maison médicale pour ses soins généraux, donc médecin, kiné, infirmier, généraliste. Et en échange de quoi, ben la maison médicale soit un forfait pour ce patient mensuel. Et cette manière de financer aussi le soin, ben, offre une liberté d'action parce que ici, les professionnels du forfait, contrairement aux professionnels qui soignent à l'acte, n'ont pas eu de pertes financières. La plupart des professionnels de première ligne qui soignent à l'acte ont eu une perte financière. Mais en plus, ils ont pu réorganiser les choses via ce forfait pour faire en sorte de ne pas non plus être que dans le focus de la crise, mais aussi plus largement, se préoccuper des patients âgés qui sont isolés à domicile, par exemple. Se préoccuper des personnes en grande souffrance psychiatrique, se préoccuper des situations de vulnérabilité sociale assez grandes. Donc, il y a quand même, mine de rien, on a quand même fort fait le focus sur le corona, la prévention, etc., ce qui était important, hein, pour désengorger les urgences, etc. C'était fondamental, mais mine de rien, cette crise a mis dans l'ombre aussi toute une série de situations sociales qui n'étaient pas grandement prises en compte. Et donc là aussi, notre mode de financement au forfait, il n'y a rien à faire, mais demain, enfin déjà aujourd'hui, j'ai eu toute une série de centres de santé qui sont venus nous voir et qui travaillent à l'acte et qui veulent savoir comment faire pour passer au forfait, quoi. Donc, toutes ces... allez, ces petites étoiles-là qui débarquent, ça fait plaisir. Et ça, il faut vraiment à tout prix en parler et essayer de faire connaître notre système. Pas spécialement dans une visée extrême gauchiste, etc. Moi, j'essaye justement d'en parler parfois avec des gens un peu inattendus pour vraiment... mettre l'accent sur la santé publique, quoi. A priori, aujourd'hui, même quelqu'un qui gagne un très très gros salaire, il n'a pas envie d'être considéré comme un objet de rentabilité. C'est quand même son corps, c'est quand même sa santé. Et donc, on a quand même tout intérêt, même les riches, à fonctionner dans un système solidaire, quoi.
Effectivement, ouais, c'est vraiment, je trouve, en tout cas, ce qui revient dans les maisons médicales, c'est un système très solidaire qui revient presque au fondement, je trouve, de l'après-guerre où on parlait, bah, justement des allocations chômage, du système de retraite. Et c'est un peu sur ce même principe de se dire, bah, on fait pot commun et à un moment donné, quand quelqu'un en a besoin, on pioche dedans et du coup, on est sur, au-delà de l'égalité, on est sur quelque chose d'équitable, en fait. On est vraiment sur, on utilise ce dont on a besoin, mais on partage avec ceux qui ont plus besoin ou pas. Merci en tout cas pour tous ces éclairages et pour tout ce que tu as présenté. Là, j'invite en tout cas ceux qui veulent intervenir. Je sais que Marion, on t'a pas encore entendu, on t'entendra, je sais, pour la dernière partie de l'émission. Mais si vous avez d'autres réflexions ou d'autres questions, que ce soit pour Aline, que ce soit pour Fanny. En tout cas, moi, j'en avais une première. Effectivement, Aline avait déjà un peu répondu, mais ces espérances, effectivement, quelles sont les principales revendications? Donc, tu parlais à la fois du forfait et de cette idée peut-être de serrer les rangs au niveau des différents praticiens de la santé. Est-ce qu'il y a aussi une espérance plus globale sur les soins, sur comment vous allez peut-être interpeller les citoyens? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de mûrir justement par rapport à ça pour les prochains mois, pour cet après-confinement et même cet après-déconfinement quand on sera peut-être un peu plus libre de se serrer dans les bras?
Écoute, l'espérance, moi, je pense vraiment cette idée de repenser la prévention est importante. Et il n'y a pas... Pour moi, c'est très global aussi. C'est une stratégie qui doit faire des petits autant dans les lieux de formation des professionnels que dans des espaces où on a tendance à fort être focalisé sur le curatif, alors qu'en fait, honnêtement, je pense que même à l'hôpital, même dans d'autres lieux de soins, cette dimension préventive est fondamentale. Et ça nécessite effectivement un peu un changement de paradigme culturel, mais on a tout à y gagner. En termes d'espoir, si je devais mentionner un élément, c'est celui-là. Il est évident que l'autre espoir, c'est, mais tu l'as très bien dit toi-même, cette dimension de solidarité à la fois à l'échelle macro de la société, donc via la sécu, mais aussi à l'échelle plus micro via ce genre de système forfaitaire, et aussi à l'échelle plus méso, je dirais, par exemple, Aline parlait tout à l'heure de cette double hiérarchie entre l'hiérarchie médical classique et hiérarchie de financement, donc avec ce focus dans les hôpitaux sur la dimension financière qui, en fait, même en termes d'efficience de santé publique, ne démontre pas grand-chose. Hein. C'est ça qui est intéressant, parce que quand on constate le taux de burn-out dans les hôpitaux, le taux de turnover des professionnels soignants dans les hôpitaux, ben, on se rend compte qu'en fait, cette espèce de new management public n'apporte pas tant de rentabilité que ça. Et donc ça, je pense vraiment j'espère que cette crise aura mis ça dans les consciences collectives, je dirais. Voilà. Et y en a plein. Hein. Je ne veux pas monopoliser tout le débat. Je trouve que c'est chouette si Marion, Aline rebondissent aussi. Hein. En termes de revendications, j'imagine qu'en tant que travailleuse de terrain, moi, dans une autre vie, j'ai été aide-soignante en gériatrie, tu vois, Aline. Donc, oui. J'imagine que en termes de revendications, tu as pas mal d'idées aussi.
Moi, ce que je voudrais ajouter, Alex, concernant la télémédecine, tu en as parlé de cet avènement de la télémédecine qui, là, part en puissance. Et personnellement, je m'insurge contre ce type de médecine qui, c'est réellement là le type de médecine où on déshumanise totalement le corps. Le corps est une mécanique. Or, pour nous soignants, nous savons qu'un corps, c'est plus qu'une mécanique. Il doit y avoir une relation très fusionnelle entre le soignant et le soigné. C'est-à-dire que dans les tribus primitives, on avait toujours, comme tu parlais, de ce chaman, la guérisseur, qui avait du pouvoir. Non pas parce qu'il avait trois fleurs séchées à donner au malade, c'est parce que le malade avait confiance en lui et que peut-être, imaginons, qu'il lui transférait de l'énergie ou qu'il l'apaisait et qu'il avait, qu'il lui donnait cette capacité d'auto-guérison. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai déjà remarqué quand je donne un antalgique à un patient peut-être en lui serrant la main ou en écoutant sa douleur, l'antalgique marche beaucoup plus que si tu lui dis ben, « Tenez, je vous donne un cachet, servez-vous, vous en faites ce que vous en voulez. » Donc, moi, je prône, il faut garder cette humanité. Et l'humanité passe, c'est le soin est la base de toute humanité, quoi. On prend soin de son bébé, on prend soin de ses parents, on prend soin, c'est le soin, avec un S majuscule. Et voilà, donc pour moi, la télémédecine, non.
En tout cas, ici, c'est clair pour la télémédecine. Et c'est vrai que je n'avais pas appuyé dans ma petite chronique, je n'avais pas fait la petite remarque, mais effectivement, c'était quelque chose qui revenait souvent, il n'y a plus de contact. Et justement, on parlait de médecine où on prend en compte tout un environnement et qu'on ne capte pas quand on est juste derrière un écran. Malheureusement, pour faire cette émission, on est derrière un écran, mais je vous assure que quand on est en studio, c'est beaucoup plus agréable. Mais je vous réinviterai la prochaine fois quand on ouvrira les studios de 48FM. Je ne sais pas si Marianne, tu avais encore une dernière chose à faire. Sinon, tout doucement, on s'étale toujours au niveau de l'heure. Bon, ce n'est pas grave, on est relativement libre sur 48FM et je remercie Fred qui rattrape toutes les émissions derrière, mais je ne sais pas si Marion, si tu, en tout cas, tu as encore le temps, si tu veux faire une dernière petite chose, ou sinon, on t'écoute juste après.
Non, alors après, non, mais c'était très intéressant, puis je ne connaissais pas du tout les maisons médicales de Belgique, donc c'est bien, on apprend toujours, c'est chouette. Merci.
Une belle découverte à installer, ouais. En tout cas en France, peut-être. Peut-être à Bordeaux. En tout cas, on t'écoute juste après. Tu as la chance. Nous, on a la vidéo là pour le moment et on voit qu'il fait encore super jour à Bordeaux alors qu'il fait nu à Liège. On a vraiment les nerfs. Mais bon, c'est pas grave. Là, vous nous écoutez ici, il est 21h18 quand on enregistre cette émission. Là, vous nous écoutez, il doit être autour de 11h. Et là, on vous laisse un petit morceau pour vous remettre en situation. Un petit morceau tout neuf, justement. Il faut que je retrouve le titre exactement que j'ai perdu parce que j'ai ouvert trop de pages, comme d'habitude. Voilà, je l'ai sous les yeux. Un truc tout neuf qui est sorti il y a 2 semaines, si je ne dis pas de bêtises. Merci Aurélie pour la proposition. C'est Ismé qu'on écoute. Le titre, c'est Dragon ou Dragon, je ne sais pas. C'est une bruxelloise qui rappe tout comme elle chante, alternant français, anglais, flamand dans le texte. C'est assez chouette. Mais je ne sais pas si elle dit Dragon ou Dragon, peut-être en français, peut-être en flamand, peut-être en anglais. Je ne sais pas. Je vous laisse écouter et on se rejoint tout à l'heure pour la dernière partie de l'erreur est urbaine. C'est avec Marion et moi-même. Et une dernière chanson aussi pour terminer. À tout de suite. Retour dans l'erreur est urbaine sur 48 FM. Il est un peu plus de 11h, on a écouté juste à l'instant une bruxelloise, Isme, c'était Dragon. Vous pouvez retrouver tous ces titres sur YouTube, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, ça nous a plu et j'espère que la dernière partie de notre émission hors d'œuvre va nous plaire. On était tout à l'heure avec nos intervenants, on parlait des établissements de soins en plein coronavirus, ça tombait bien. Donc, on a parlé notamment des maisons médicales avec Fanny. Merci en tout cas pour cette intervention, pour nous avoir un peu développé, pour nous avoir fait découvrir pour certains, comme pour beaucoup d'auditeurs, j'imagine, les maisons médicales et leur impact justement et leur influence pendant cette période particulière, les espérances aussi qu'on a derrière. Dans le même temps, on a aussi partagé les espérances et les difficultés qu'il y avait de l'autre côté de la frontière, côté français. On avait Aline qui était avec nous. Merci Aline pour ton témoignage d'infirmière en bloc opératoire dans une région particulièrement touchée en France, la région Grand Est. Tu as pu nous parler à la fois de ton vécu, de l'évolution qu'il y avait depuis une trentaine d'années que tu travailles dans le milieu, mais aussi ces espérances. On parlait d'humanité. En tout cas, je crois que c'est l'un des mots qui est ressorti. C'était cette importance-là qu'on partage aussi. Parce que nous aussi, on veut partager un urbanisme plus humain. Je reviens justement pour ça à un article d'Urbagora. Peut-être que vous êtes tombé dessus. En tout cas, nous, Cocorico, on est super contents parce que l'article qui a été publié, c'était le lundi 13 avril. On parlait de pourquoi et comment il va falloir rendre Liège cyclable en été. Alors, ce n'est pas uniquement Liège qu'il faut rendre cyclable, c'est toutes les villes. Et notamment, il y a eu particulièrement en Amérique du Sud tout un mouvement de villes qui ont mis en place ce qu'on appelle un urbanisme tactique face à la problématique du coronavirus et du fait que les transports publics sont un bouillon de culture pour notre cher virus. Et bien, il faut contrer ça et pas forcément avec un véhicule motorisé individuel, mais plutôt peut-être par des déplacements doux, puisqu'on a constaté dans toutes les villes du monde que les déplacements de moins de 5 km représentent 80 à 90% des déplacements. Et pour cela, quoi de mieux que de mettre en place un peu de place, justement, pour la petite reine. Et ce qui va se mettre en place à Liège, mais aussi qui est déjà fait à Paris, à Bruxelles, à Berlin, au Danemark, et du coup en Amérique du Sud et également en Amérique du Nord, c'est de laisser une place pour les vélos sur la voie routière. On va avoir, quand on a le choix du moins, une place pour les voitures et une autre voie qui va être libérée pour les vélos. Mais comment faire ? C'est impossible. Il faut payer des aménagements. Mais non, simplement juste quelques poteaux et un peu de peinture et puis on fait des marques au vélo tout simplement et ça va être mis en place. Du moins, on l'espère très rapidement parce qu'ils ont enfin mis en place une task force à Liège dont fait partie Urbagora, notre partenaire de l'émission, mais également le GRAC. On vous suit, on vous tient au courant de ce qui va se passer. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur le site du GRAC ou d'Urbagora pour faire vos propositions d'aménagement. Il y a un premier plan qui a été mis en place, qui est publié par la ville de Liège sur 30 ou 35 km de voies cyclables supplémentaires sur la ville de Liège. Mais n'hésitez pas à faire vos revendications. L'idée, c'est d'améliorer tout ça ensemble et de manière plus humaine, plus démocratique. Le mot est lancé. Oui, je sais, je suis de gauche. Bref, je laisse la parole aussi pour terminer à notre amie Bernie, Bernito aka Marion. Elle nous vient de Bordeaux, mais tiens donc, comme certaines collègues qui étaient également présentes la semaine dernière, Alexia, Mayou et Alice. Et Marion fait également partie de la bande. C'est tout l'Institut d'aménagement, de tourisme et d'urbanisme. Agnès Berland-Berton, directrice de l'Institut, si tu nous écoutes. Oui, on est toujours là. On nous écoute sur Liège. Et c'est Bordeaux Represent. Et on t'écoute. Je crois que c'est pour parler pas vraiment d'urbanisme au final. C'est plus pour un horoscope, non ? C'est ça ?
Ouais, c'est un petit horoscope qui voit la vie en rose, effectivement. Donc, une petite note complètement décalée pour finir cette émission, mais qui nous fait quand même quelques petites références à l'actualité et voire même parfois à l'urbanisme. Alors, on commence pour les béliers. Alors que ces derniers temps n'ont pas été porteurs de nouvelles expériences pour les béliers, le mois de mai promet de changer cela. À l'heure du déconfinement et du printemps, petit bélier, prends ton masque et ton gel hydroalcoolique et va arpenter les rues de ta ville ou les routes de ta campagne. À vélo, bien sûr, pour éviter les transports en commun, comme Alex vient de nous le dire. Cela ne pourrait être qu'à ton avantage. Les taureaux. Alors que nos pays vont démarrer un mois de mai avec la peur d'une crise économique sans précédent, les taureaux, eux, semblent profiter du mois de mai pour renflouer leurs caisses. Peut-être fais-tu partie, petit taureau, de ces travailleurs méritants et courageux qui auront l'opportunité sur ce mois de mai de recevoir une prime. Ou vas-tu peut-être simplement trouver un billet de 500 euros, je ne sais pas, par hasard dans la rue en bas de chez toi. Sache en tout cas que ce mois de mai sera pour toi signe de richesse. Les Gémeaux. Un maître mot pour les Gémeaux, n'ayez pas peur de sortir. Le déconfinement rimera pour vous Gémeaux avec liens sociaux et relations. Vous allez profiter de cette liberté retrouvée pour renforcer vos liens avec vos proches. Vous déborderez d'idées pour leur remonter le moral et vos idées de soirée et de déconfinement seront des plus réussies. Il fera bon en ce début du mois de mai de fréquenter un Gémeaux. Cancer, c'est un cancer tout feu tout flamme qui démarre ce mois de mai. Une vraie pile électrique qui aura l'envie de monter son vélo, son cheval ou enfiler ses rollers, prendre son skate pour croquer la vie à pleines dents. La crise économique et sociale, le Covid-19, les services des hôpitaux épuisés, l'annulation de tous les festivals cet été, rien de tout cela ne sera à remettre en cause le moral positif du cancer qui se nourrit simplement des petites choses de la vie. Lion, le mois de mai apportera au lion une forme de sérénité et de paix intérieure. Alors que nos déplacements et voyages sont pour le moment un espoir lointain, les lions sauront s'appuyer sur leurs ressources internes pour réaliser une forme de voyage intérieur amenant vers des émotions calmes. Cette sérénité ne rendra les lions que plus resplendissants. C'est le moment pour vous, petits lions, d'aller flirter sur le net ou de manière plus audacieuse en abordant une belle ou un beau inconnu dans la rue. Vierge. Pour certains, le déconfinement apparaît comme la possibilité d'un renouveau, d'un grand changement. Eh bien, pour vous, les Vierges, c'est bien le cas. Vous allez saisir cette occasion de ce mois de mai printanier pour changer vos habitudes de vie. Pratiques physiques, sportives et alimentation saine seront vos maîtres mots. Fini la nourriture des supermarchés, les plats réchauffés et l'utilisation de la voiture pour n'importe quoi. Place au vélo, à la marche à pied et aux bons petits plats diététiques faits maison. Balance. On continue de surfer sur la vague du grand changement. Décidément, les astres nous envoient des messages. Pour vous, petit balance, le mois de mai est signe de saut vers l'inconnu. Quel pari des plus fous allez-vous réaliser ? Une reconversion professionnelle pour devenir infirmier ? Tellement ces femmes et ces hommes ont marqué vos esprits ces dernières semaines. N'est-ce pas, Claude ? N'est-ce pas, Aline, pardon ? Ou bien au contraire, une envie radicale de tout claquer pour aller cultiver des fraises et des tomates au fin fond de la campagne ? Un grand changement s'annonce, mais seul vous saurez lequel. Scorpion, on parle amour avec les scorpions. Pour les scorpions en couple, le mois de mai rime avec grande discussion avec vos partenaires. Si vous avez besoin, voici quelques idées de grands sujets de discussion à lancer. Quelle destination locale pour ces vacances d'été 2020 sans avion ni pays étranger ? Quel ami invité à ces apéros de déconfinement pour ne pas dépasser une jauge frôlant la crise sanitaire ? Mais surtout, quelle nouvelle série regarder maintenant qu'on a épuisé tout le stock de Netflix après ces semaines de confinement ? Bref, on vous annonce de belles soirées passionnantes de discussion. Sagittaire, optimisme, énergie positive et ténacité, tous ces termes vont rythmer le mois de mai des Sagittaires. Vos proches vous considéreront comme le vrai bout en train du moment. Vous inspirerez même certaines personnes, tel un Le Corbusier qui a inspiré un grand nombre de ses disciples. On aura tous envie, en ce mois de mai, de fréquenter un Sagittaire. Attention tout de même à ne pas adopter le caractère arrogant de certains de nos star-architectes. Capricorne, la période du printemps rime parfois avec ménage. Eh bien, Capricorne, ce sera effectivement pour vous le cas. Une folle envie de faire du tri, de revendre toutes vos affaires sur le Bon Coin ou Vinted, et même quelque chose d'assez exceptionnel, laver ces vitres que vous n'avez jamais lavées depuis votre installation. Bref, certains avaient saisi le début du confinement pour se motiver à faire du ménage. Pour vous, Capricorne, vous saisissez l'opportunité du déconfinement pour faire ce grand nettoyage. Eh bien, allez-y, foncez. Et si vous avez encore de la motivation, mes vitres à moi n'attendent que votre engouement actuel du ménage. Verseau, n'avez-vous jamais rêvé avoir pour quelques instants pris la place de Barack Obama lors d'un de ses discours si inspirants, petit Verseau ? Ne sentez-vous pas en vous grandir l'âme d'un leader, mais pas n'importe quel leader qui pense savoir gérer une crise sanitaire alors qu'il est la cause de la mise à mal du service public ? Non, Vous, Verseau, vous faites preuve d'un leadership humain et éthique. Et le mois de mai sera pour vous l'occasion de faire profiter à tout votre entourage vos sages idées et votre force à fédérer. Alors allez-y, les Verseaux, lancez-vous avec votre team dans la réalisation d'une nouvelle société utopique, la réalisation d'un écolieu ou la lutte contre le mal logement ou bien encore le sauvetage du service public. Et enfin, on termine avec les poissons, les petits poissons. J'imagine que vous commencez à sentir cet air si particulier qui est celui du printemps. Ne sentez-vous pas qu'il vous donne envie de sortir, de vous évader de votre lit dans lequel vous venez de passer ces deux derniers mois confinés, à relire toute votre bibliothèque jusqu'à même cet album de Martine de votre enfance. Bref, profitez de ce déconfinement poisson pour sortir, vous émoustiller et festoyer, tout en respectant bien sûr les gestes barrières. Cela vous ira si bien et vous rayonnerez. Voilà pour cet horoscope de mai qui voilà, est bien sous le signe du déconfinement et donc je pense plutôt une ambition et un espoir positif pour ce printemps qui démarre.
Merci, en tout cas ça se ressent, ça va, vous êtes satisfait Fanny, Aline de l'horoscope.
J'ai bien aimé mon signe, ouais.
T'es quoi toi Aline?
Cancer.
Ah, cancer, ah oui.
Ça me ressemble assez, ouais.
Bon, si tu es satisfaite, c'est l'essentiel. Fanny, pour toi, tout va bien au niveau de
ton... Ouais, c'est le poisson, c'est parfait. Franchement, ah, oui. Inspiré. Ben, voilà, parfait. Un peu de liberté.
Bah, merci beaucoup, en tout cas. Alors, comment on t'appelle, Dame Bernita, à nouveau, pour ces horoscopes ou,
Ah oui, ça me va bien. Ça me va bien.
Dame Bernita est de retour, peut-être la semaine prochaine. Qui sait si elle a le temps de nous refaire un horoscope ou peut-être un peu plus tard. Dame Bernita est relativement libre dans sa roulotte, donc c'est elle qui décide. C'est pas nous qui lui demandons de faire un horoscope, c'est elle qui nous l'offre et c'est avec un tout grand plaisir qu'elle termine cette émission et cette partie hors d'œuvre. En tout cas, je tenais à toutes vous remercier. À nouveau, c'était une émission qui était très féminine. J'étais à nouveau le seul masculin, mais en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir. Grand merci, du coup, Fanny, Aline. Je remercie indirectement, du coup, Mayou, qui était là la semaine dernière, qui n'est autre que ta fille. Oui, révélation. Et merci en tout cas Bernie, Marion d'avoir été là également pour cet horoscope. J'aimerais, je le demande directement ici, si tu es d'accord également de publier cet horoscope sur notre page Facebook pour que tout le monde ait le plaisir de retrouver son signe et se rassurer sous ce mois de mai.
Bien sûr, bien sûr.
Super. Bah, en tout cas, c'était aussi pour vous rappeler qu'on a une page Facebook. Je fais très bien la transition et je souligne bien tout ça. Vous retrouverez également notre émission en podcast sur le site internet d'Urbagora, notre partenaire qui nous soutient et qui nous suit depuis tout ce temps. Et on continue la semaine prochaine toujours avec des thématiques en lien avec ce qu'on vit actuellement, c'est-à-dire ce confinement si particulier. Et en joie, la semaine prochaine, nous parlerons de surveillance et d'autoritarisme pendant le confinement et le déconfinement. Une belle joie en tout cas. Bref, c'est important d'en parler puisqu'on est aussi une émission militante. En attendant, je sais que c'est très dur d'attendre une semaine sans nous écouter. Je vous invite, on en reparlera également dans l'émission la semaine prochaine. Je vous invite sur deux chouettes documentaires d'Arte, un très court. Vous pouvez vraiment l'écouter et le regarder en même temps que vous mangez. Il s'appelle « Il y a une réelle possibilité d'abus de pouvoir des gouvernements », entre guillemets. Vous la retrouvez sur la chaîne d'Arte. C'est super intéressant et on en reparlera largement la semaine prochaine. Et également, un peu plus long, 1h30, c'est pour la soirée. Si vous avez plus, comme l'a dit notre chère Bernita, si vous n'avez plus de série Netflix à regarder, vous pourrez regarder ce documentaire d'Arte qui s'appelle « Tous surveillés ». 7 milliards de suspects. C'est également en libre accès sur la chaîne YouTube d'Arte. On se laisse en musique, une dernière musique. On termine toujours par du local. Bon, on avait déjà une bruxelloise, mais là, on vient vraiment bien liégeois. On va terminer avec Ami Terrien au pluriel, puisque Ami Terrien, donc, qui est au singulier à la base, slammer, a amené avec lui le collectif du Lion. Pour un ensemble jazz assez chouette, donc slam jazz. Je vous laisse écouter Je l'ai découvert en concert il y a quelques mois quand on pouvait encore écouter des concerts. Oui, c'était, j'ai l'impression que c'était il y a très longtemps. Mais non, c'était seulement au mois de mars. Je vous laisse écouter Amitérien au pluriel et c'est Les Poètes. On se quitte en musique. Un grand merci à vous toutes et à vous tous pour votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine à 10h. Gros bisous. Ciao.
Certains poètes sont des souffleurs de verre au travers desquels on regarde le monde différemment. Ils sont charmeurs de souvenirs, ils invoquent des sensations, ils sont encens au bazar du silence. Ils pêchent des perles qu'ils enfilent en dentelle, en collier dentelé de nacre. Ils tissent des nacelles aux nuages, des passerelles, voix sauvages. Tous les sages chantent le sacre. Aux grains de sable sur leurs doigts, ils tendent l'oreille. Aux astres levés dans la nuit, ils racontent les murmures de la mer. Jardiniers en enfer, ils cultivent des nuages et les offrent. Coudriers, ils creusent et jaillit l'aube. Sur le papier, ils sèment le grain qui au printemps éclot dans nos cœurs. Sans cesse, ils poursuivent leur ombre avec un flambeau et c'est comme un balai pour l'immensité. On ne les voit pas, géants dressés parmi les hommes, ni ne les entend à travers toute la terre. Lorsque le verbe touche l'oreille, ils ont déjà disparu, mais à travers le temps, ils ont laissé un interstice par où se glisse une douce lumière. Si leurs pieds peuvent courir, ils peuvent aussi danser. Et lorsqu'ils rencontrent un tapis, s'envole. Ils sont venus avec un chant au bord des lèvres pour vous embrasser. Et dans leurs petits bras, ils chérissent l'univers qui le berce. Lorsqu'on les arrête, avant qu'ils ne disent l'irréparable, ils le disent. Et lorsqu'on les déclare coupables d'inondations, ils pleurent. Lorsqu'on les enferme, les gardiens les regardent avec nostalgie. Et à l'extinction des feux, leurs yeux pétillent à la recherche des photons qui s'échappent de la langue. Ils les saisissent et lorsque quelqu'un est triste, ils les recrachent. Ils renaissent tous les jours et leur mère a mal mais elle sourit car elles sont de ces poètes qui cueillent du soleil à main nue pour les glisser dans vos poches l'hiver venu. Elles vous enlacent et vous bercent comme si vous étiez tout l'univers fragile